Bienvenue sur Place des Mobilités, la communauté d'acteurs engagés pour une ruralité en mouvement. Une initiative de l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. Qui sont celles et ceux qui ouvrent la voie à une vie sans voiture à la campagne? C'était le sujet de notre table ronde du 30 janvier dernier, enregistrée dans le tiers-lieu Césure, qui suivait la projection du documentaire Virage vers le futur. Un échange passionnant en compagnie d'experts et d'expertes de la mobilité en milieu rural qu'on vous laisse découvrir dès maintenant.
On va commencer cette table ronde par une rapide introduction. Sur ma gauche, Hélène Jacquemin, que vous avez pu apercevoir dans le documentaire. Hélène, vous êtes référente mobilité rurale, membre du conseil d'administration de la Fabrique des Mobilités, cofondatrice et coprésidente de l'association INVD, Innovation Véhicule Doux, dont l'objet est la transition énergétique des mobilités dans les territoires ruraux par l'innovation et l'accompagnement au changement des habitudes. On vous a vu donc dans le documentaire. Vous avez aussi co-organisé avec l'ADEME le deuxième salon européen des véhicules intermédiaires qui a eu lieu à Millau en novembre dernier. Nous avons aussi M. Bertrand Brehm, qui est donc un expert branding et plateforme de marque. Vous êtes consultant en charge du développement de la marque Kilo, une entreprise qui fabrique en France depuis 2020 des objets de mobilité électrique, sobres, légers, robustes et sur tous les terrains. On reviendra un peu plus sur votre expertise. Nous avons aussi Alexandre Fabry, vous êtes directeur de projet politique territoriale de mobilité au CEREMA. Vous coordonnez l'action du CEREMA au sein du dispositif France Mobilité et plus globalement dans l'accompagnement des collectivités des zones rurales pour leur politique locale de mobilité, par exemple dans les territoires de montagne. Et plus récemment, vous venez de co-diriger un ouvrage de synthèse sur l'action publique locale et mobilité, paru aux presses universitaires de Grenoble en novembre 2023. Et enfin, Aurélien Bigot, vous êtes chercheur sur la transition énergétique des transports. Vous avez soutenu votre thèse en 2020 intitulée « Les transports face aux défis de la transition énergétique » et vous continuez de travailler sur les différents leviers de la transition de nos mobilités. Et vous avez récemment paru le livre « Voiture, fake or not » en mai 2023 chez Tana Éditions. Pour commencer, j'aimerais bien vous écouter sur les impressions que vous avez eues à la suite du visionnage du documentaire.
Bien, merci pour l'invitation. Tout d'abord, première réaction, bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont fait ce film. Je pense que ça fait du bien en tout cas de voir des choses positives sur les mobilités rurales, de montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Je pense que c'est vraiment ça un intérêt majeur de ce film, parce que quand on parle de mobilité de manière générale, on sait qu'on a ce grand défi de réussir à avoir des mobilités plus sobres, de changer les pratiques de mobilité, que déjà même en ville, là où quelque part c'est presque le plus simple, ça amène déjà beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés aussi des fois à montrer finalement la direction dans laquelle on veut aller, de montrer qu'on a aussi énormément de positifs à retirer de tout ça, projeter ce futur désirable. Et quand en plus on va vers les mobilités rurales, souvent la première chose qu'on entend, c'est de toute façon en zone rurale on ne peut pas faire autrement que la voiture. Et à la limite c'est vrai que c'est pour beaucoup la réalité aujourd'hui, mais pour beaucoup c'est une projection aussi vers le futur de se dire de toute façon on ne pourra jamais faire autrement. Et là je pense que ce film vient face à cette idée reçue en disant ben non, en fait il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire de manière différente. Il y a plein d'autres types d'alternatives. Alors toutes n'ont pas le même potentiel, toutes n'ont pas les mêmes segments finalement en termes d'utilité, c'est pas le même type de déplacement, etc. Donc il faut combiner un peu toutes ces différentes alternatives. Mais en tout cas, je trouve que le gros intérêt du film est de montrer cette autre possible pour l'avenir.
Bonsoir à tous. Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Je voulais remercier Léana et remercier Laurent de nous avoir invités à visionner ce film-là. Parce que effectivement, on a la banane après, parce que on montre quelque chose que nous on peut voir dans un certain nombre d'endroits, mais là on regroupe tout et on le montre avec le sourire et avec des gens qui le pratiquent et qui le vivent bien. Et nous, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de territoires. On accompagne beaucoup de territoires en zone de montagne, une centaine de projets un peu partout dans des zones de montagne où on se dit c'est particulièrement difficile, il y a du dénivelé, c'est compliqué. Et en fait, on voit que les solutions, elles existent et qu'on en a un peu partout en fait en France. On en a, j'ai d'autres exemples en Haute-France, donc dans des territoires totalement différents, où pour autant, on invente des solutions et ça fonctionne et ça marche. Donc c'est bien de mettre en avant ce côté extrêmement positif et ce côté, c'est aujourd'hui que ça marche aussi. C'est pas forcément dans 10 ans, dans 15 ans. Ça marche et ça peut marcher dès aujourd'hui et on n'est pas obligé d'attendre d'hypothétiques solutions qui arriveraient plus tard. Les solutions, on les a déjà et donc on peut déjà faire des choses.
Bien, tout pareil. Non, mais pour ajouter à ce qui vient d'être dit, moi, ça me donne envie de les rejoindre, d'aller dans les campagnes, en fait, de ces campagnes magnifiques, incroyables, en France notamment. Hein, on a des campagnes de dingue, des populations de dingue, inspirantes, résilientes, qui inventent, innovent. Et on le voit à plein de moments dans le film. Les sourires de la fin sont très inspirants et garder la positivité, le plaisir, la positivité et considérer la mobilité comme un plaisir et pas comme une contrainte, peut-être un début de solution aussi.
Toute la bande qui a participé à la réalisation de ce film, on vous remercie, on est très touchés que vous soyez là pour regarder ce documentaire dont on n'aurait jamais pensé qu'il soit un jour diffusé à la capitale.
Merci Hélène. Pour reprendre un petit peu au sujet des véhicules intermédiaires, on a vu le Véloto qui est poursuivi par InVD. Est-ce que Bertrand, vous pouvez un peu nous expliquer le concept de la bagnole, donc le véhicule intermédiaire produit par Kilo, et surtout en fait qui l'achète, pour quels usages et finalement qu'est-ce que ça induit comme changement d'habitude chez les utilisateurs? Il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image. C'est con. Je vous invite à aller voir donc kilo.com pour voir la bagnole. Donc on a Kilo est une marque lancée par un groupe industriel de la vallée de l'Arve. Donc j'habite en montagne à Chamonix et la vallée de l'Arve, c'est la vallée spécialiste du décolletage. C'est une vallée industrielle historique en France, etc. Ce groupe a décidé de muter, de faire des objets de mobilité. Et c'est avec la rencontre d'un designer. Et avec vraiment, en consultant les 600 salariés du groupe sur comment ils venaient travailler le matin, comment ils se déplaçaient dans ces territoires de montagne, etc., que est née donc la bagnole, c'est le nom déposé de la voiture que nous lançons, qui est une voiture légère, qui fait 350 kg, qui est homologuée en version sans permis à 45 km/h ou version avec permis à 90 km/h, 70 ou 140 km d'autonomie. Et le cahier des charges était vraiment de refaire une voiture. Le visuel manifeste du designer, c'est un gamin assis sur une pile de bouquins qui s'imagine conduire une voiture parce que la voiture, c'est un plaisir. Le mot voiture a été prononcé peut-être 100 fois dans le film. Donc nous, on a voulu refaire une voiture simple qui utilise peu d'énergie, qui est réparable, qui est facilement démontable. Le but, c'est vraiment que les gens se l'approprient et puissent la réparer eux-mêmes, et qui est surtout peu cher, quoi, qui économiquement peut fonctionner. Et voilà, donc on lance, on a la chance, j'ai la chance de travailler pour ce groupe industriel qui a décidé d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Voilà.
Et dans les utilisateurs, est-ce qu'il y a des usages particuliers? Est-ce que vous avez des retours d'expérience déjà?
Alors la voiture, on a 300 précommandes, mais là, aujourd'hui on n'a pas d'utilisateur encore qui l'utilise. Alors, on l'a beaucoup testé, on l'a beaucoup montré. En fait, on a trois entrées d'utilisation et là, c'est vraiment pensé à l'usage, hein, ça a été pensé pour ça. Ça adresse le quotidien, le travail et le loisir. C'est un objet vraiment multi-usage. Comme il y a de l'intermodalité, il y a des usages, on peut utiliser le même objet pour plein d'usages différents. Donc on peut aller aux champignons, on peut aller chercher son colis à la poste, on peut aller livrer ou réparer quelque chose avec. Et donc on s'adresse à ces usages-là et avec un travail de communauté, montrer aux communautés, donc la communauté de skieurs à Chamonix ou communauté de plombiers en France, comment on peut se servir de la voiture, parce que c'est la bagnole donc. C'est la première question qu'on a quand on est sur un salon à Millau, par exemple. C'est super, mais ça sert à quoi? Alors, ça a quand même quatre roues et un volant, donc on peut imaginer qu'on peut se déplacer avec. Mais vraiment, hein, c'est vraiment les trois quarts des questions. C'est la première impression, c'est mais à quoi ça sert, en fait? Et donc nous, notre objectif, c'est de montrer l'usage, montrer comment on peut s'en servir et comment on peut la partager, comment on peut, on essaye d'inventer un peu des modèles économiques autour de la bagnole, de l'usage de la bagnole. Et notre objectif, c'est pas d'en vendre le plus possible, c'est que nos communautés les utilisent à bon escient, quoi, et en version multi-usage, etc.
Merci. Finalement, du coup, la bagnole ou le véloto, on voit bien que c'est des exemples de véhicules intermédiaires. Vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, Alexandre, en énonçant votre impression. On a l'impression en fait qu'il y a plusieurs alternatives, enfin même énormément actuellement qui existent. On l'a vu très bien dans le documentaire, le transport à la demande, l'autoportage, le covoiturage. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de poser comme question ce soir, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en système toutes ces solutions, toutes ces alternatives ? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle, en fait, dans des territoires, tout en tenant compte, pour ajouter un peu de difficulté, de la singularité de chaque territoire ? Parce qu'on sait que ce n'est pas la même chose d'être dans du périurbain, en milieu très peu dense, d'être à la montagne. Donc, voilà, comment est-ce qu'on crée cette mise en système ? Aurélien, si vous voulez commencer.
Je pense déjà à ce que montre bien le documentaire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de solution unique pour remplacer la voiture individuelle. C'est dit aussi, il me semble, Hélène le dit dès le début, qu'il faut réussir à trouver aussi quelles sont les solutions les plus adaptées aux zones rurales, dans le sens où ce ne sera pas forcément les mêmes qu'en zone urbaine, essentiellement parce que les zones rurales, la définition, c'est en fonction de la densité. Et la densité, elle est faible. En termes de densité de population, du coup, de flux de déplacement. Et du coup, ce n'est pas les mêmes types de modes de transport ou de véhicules qu'on peut utiliser en priorité dans des zones rurales que dans des zones urbaines. J'ai regardé notamment un des segments de mobilité que viennent adresser un peu ces véhicules intermédiaires. Ils sont particulièrement pertinents dans les zones rurales parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de voitures, quoi, c'est le mode qui domine très largement, et très souvent cette voiture est utilisée avec une seule personne à l'intérieur du véhicule, plus rarement deux, mais encore plus, c'est encore plus rare. Et en gros, si on regarde les trajets de 10 à 50 km pour les habitants des zones rurales, en gros on est sur 15% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la mobilité des voyageurs en France. Donc confondu l'ensemble de ramené à l'ensemble de la population et ramené à tout type de déplacement, donc y compris les déplacements longue distance, le transport aérien, etc. Donc on est à 15% des émissions qui sont sur ces trajets entre 10 et 50 km. Et aujourd'hui, sur ces trajets de 10 à 50 km dans les zones rurales, 94% des trajets, c'est la voiture. Et en très grande majorité, c'est la voiture avec une seule personne à l'intérieur. Et du coup, on est sur une vraie inefficacité du système, quelque part. C'est qu'on a un véhicule de l'ordre de 5 places, en général, qui fait une tonne 5. Ça a été cité à un moment donné, à 95%. Du coup, en gros, ça transporte le poids du véhicule et qu'à 5%, en gros, le poids de la personne que ça transporte. Et du coup, il y a plusieurs manières de répondre à cette inefficacité du système, à la fois autant que possible, quand ça a été cité, si on peut passer aux mobilités actives, la marche, le vélo, très bien, et il faut le faire autant que possible. Là, je citais les déplacements de plus de 10 km, donc déjà sur du vélo classique, on est quand même sur quelque chose qui est un peu compliqué, surtout s'il y a du relief, etc. Donc c'est là où ça demande un peu d'autres types de véhicules, des vélos un peu augmentés, etc. Après, il y a les transports en commun, mais sur une faible densité, ça peut fonctionner sur certains axes, sur certaines routes ou certaines lignes de chemin de fer qui existent déjà, ou quand les distances sont un peu plus longues, etc. Là, on peut avoir des transports en commun, mais ça ne peut pas être une solution massifiable à l'ensemble des déplacements de ces zones rurales. Aujourd'hui, sur les trajets de 10 à 50 km que j'évoquais, en gros, la part des transports en commun, c'est 4% de l'ensemble des trajets. Donc même si on est ambitieux, on se dit on multiplie par 2 d'ici 2050, bon, ça amène à 8%. Il reste quand même beaucoup à faire avec d'autres types de solutions. Et du coup, une manière de répondre à l'inefficacité du système de personnes seules dans une voiture de 5 places, c'est de dire on remplit mieux les voitures. Donc il y a là le covoiturage aussi qui est cité, qui n'est pas particulièrement pertinent dans ces zones-là. Il y a la question un peu d'organisation pour réussir à trouver des personnes qui ont le même type de trajet. Donc comme, encore une fois, les flux sont assez faibles, c'est un peu plus difficile que dans des zones ou sur des axes où les flux sont un peu plus importants. C'est là où typiquement l'autostop ou des choses un petit peu plus de covoiturage dynamique aussi, comme on peut l'appeler, peut avoir sa pertinence. Et puis, si jamais on n'arrive pas à faire un peu une forme de transport un peu plus collectif, hein, le covoiturage, c'est déjà un petit peu du transport collectif par certains aspects, bien, c'est là où on a besoin d'aller vers des véhicules beaucoup plus légers. Donc certains qui sont des sortes de voitures miniatures, ou d'autres qui sont, on prend depuis le vélo et puis on essaie de rajouter un peu des attributs au vélo, soit une assistance électrique jusqu'à 25, jusqu'à 45 km/h, là ça devient plus légalement un vélo, mais ça peut y ressembler, soit des vélos qui permettent d'emporter des charges, emporter des enfants avec des vélos cargo, avec des vélotos, des vélo-voitures. Après il y a une profusion de noms, une profusion de véhicules qui se développe actuellement aussi dans le cadre du projet de l'extrême défi sur lequel on pourra peut-être revenir également. Mais en tout cas, il y a un peu tous ces types de mobilité alternative qu'on peut développer. Et après, pour les mettre en système, disons qu'il faut gérer l'intermodalité comme ça a été évoqué, c'est-à-dire de pouvoir sur un même déplacement combiner différents modes de transport. Et puis la multimodalité, là, c'est le fait que selon les types de déplacements, eh bien, on n'utilise pas forcément les mêmes modes. Donc ça demande de développer ces différentes alternatives et puis selon les trajets, eh bien, de pouvoir adapter quel est le mode de transport le plus sable, le plus adapté pour les différents types de trajets qu'on peut avoir.
Est-ce que Alexandre voulait réagir du point de vue du CEREMA ?
Oui, parce que ce que dit Aurélien est très juste et on le voit bien. La solution, elle n'existe pas. Donc il faut qu'on oublie, ça ne marchera jamais. La solution n'existe pas. Des solutions existent. La question, c'est comment on fait pour les coordonner ? Comment on fait pour faire un système ? Et ça tombe bien, on peut avoir des outils pour ça. Et les pouvoirs publics, ils ont des outils pour ça. Il y a un outil tout simple qui marche assez bien en milieu rural, ça s'appelle le plan de mobilité simplifié. Petit acronyme, ok, on a l'habitude, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est juste un petit outil super souple, adapté aux communautés de communes de milieu rural. Où on leur dit, ok, comment vous vous organisez pour travailler la question des mobilités ? L'intérêt de ce plan, il est pour moi triple. Le premier, c'est un, il oblige à poser un diagnostic au départ. Et poser le diagnostic sur le territoire, ça veut dire prendre le temps de regarder où sont les flux, comment ça fonctionne, qui se déplace ou comment. Et ça permet de répondre à une première question qui est de dire comment on s'adapte au territoire. Parce que penser qu'on va trouver une solution qui marche sur un territoire et qu'on va la décalquer sur un territoire à 25 km de là, ça ne marchera pas. Parce que justement, il y a d'autres spécificités topographiques, de flux de circulation. Donc démarrer par le diagnostic et s'obliger à démarrer par ça, ça prend du temps, mais ça va permettre de mieux adapter les choses. Le deuxième chose, c'est que le PDMS, souvent, en tout cas nous, quand on les accompagne, c'est ce qu'on prône au CEREMA, c'est que ça passe par un temps de concertation avec les habitants. Et ça aussi, c'est essentiel pour la réussite des projets. C'est essentiel pour deux choses. Un, ça permet d'adapter les services qu'on veut mettre en place aux besoins réels des habitants et de les moduler à la marche pour que ça corresponde parfaitement. Mais deux, rien que dans la démarche, même si derrière vous aboutissez pas forcément au service, vous mettez en mouvement la réflexion, les différents acteurs locaux sur cette question-là. Et donc, vous commencez à sensibiliser à cette question-là. Et trois, derrière, vous avez un plan d'action, parce que de la même manière qu'on ne peut pas dire la solution existe, il suffit de faire ça, on ne peut pas dire on va tout faire en même temps. Ça ne marchera pas. Les pouvoirs publics, les collectivités locales, elles n'ont pas les moyens de tout faire en même temps. Par contre, se donner un plan d'action dans le temps, dans l'espace, sur les actions à faire, ça fonctionne. Et ce petit outil-là, si je vous dis combien il y en a en France, je vais peut-être vous faire peur. Il y en a 20. Il y a 20 territoires qui ont aujourd'hui élaboré un plan de mobilité simplifié sur les 1000 et quelques communautés de communes qui pourraient l'élaborer. Donc c'est très peu. Mais cet outil n'existe que depuis 2019. Et s'il y en a 20 élaborés, il y en a 70 en cours d'élaboration. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une dynamique qui est là et qui commence à se mettre en place. Alors on n'a plus beaucoup de temps pour changer nos modes de comportement. Et en même temps, la difficulté, c'est que si on veut bien le faire, eh ben, il faut se donner le temps de mettre en place les outils qui vont permettre de bien coordonner les choses.
On a l'impression aussi que, enfin, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à, en fait, ce serait aussi à développer une méthodologie et suivre cet outil. On l'a, c'est aussi vos premières impressions suite au documentaire. ça donne la banane, c'est positif de voir des alternatives qui existent. On a vu aussi l'image des enfants qui jouent aux voitures avec du trafic dans les bouchons, etc. Est-ce que cette mise en système de toutes ces alternatives à l'autosolisme, quelque part, ce ne serait pas aussi d'accompagner un changement des mentalités, de perception, des représentations de la voiture et des modes de transport en règle générale?
Vous avez 30 minutes, là. Je vais essayer de faire vite. Nous, donc, association INVD, association d'habitants, on a identifié très tôt qu'en même temps qu'on travaillait sur l'innovation de véhicules intermédiaires, il fallait aussi travailler sur l'évolution des mentalités, du regard qu'on peut porter sur ces trucs un peu bizarres. Là. Je pense la première fois qu'on nous a vu circuler à bord de cette bestiole, parce que c'est son petit nom, c'est la bestiole, là, le prototype que vous avez vu à l'écran. Un voisin nous dit « ça roule ce truc, tu comptes aller à Millau avec ça ?» Millau, 20 km, hein. Tu comptes aller à Millau avec ça ? Ben oui. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est eux qui nous demandent où en sont les prochains prototypes et quand est-ce qu'ils pourront les essayer, etc. Voilà. Donc tout ce travail de changement des mobilités, ben, comme tu le soulignes, Léana, c'est plusieurs leviers en même temps qu'on essaie d'actionner et qu'on essaie d'actionner aussi avec l'ADEME via leur projet donc de l'extrême défi. Alors nous, INVD, on a fait plusieurs choses. On organise des événements qui s'appellent une semaine roue tout doux, une semaine sans ma voiture, qui consiste à prendre une collectivité locale ou une association ou un espace et de dire, ben voilà, sur ce village, par exemple, pendant une semaine, on va proposer aux habitants volontaires de lâcher leur voiture et d'utiliser d'autres solutions de mobilité qu'on leur met à disposition. Donc on regarde ce qui existe localement pour l'aménager si besoin pendant la semaine et on met à disposition tout type aussi de vélo assistance électrique, vélo cargo, voire véhicule intermédiaire quand on en a. Et ces événements-là participent à changer le regard des gens et 100% de ceux qui osent essayer une autre mobilité nous disent « Ah non, mais c'est génial d'essayer autre chose ». Voilà, donc ça, c'est un premier levier. Cet événement a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, on en a fait un kit d'organisation qui est disponible sur notre site internet et que plusieurs universités qui font des études de géographie, plusieurs collectivités locales ont déjà appris pour organiser ces événements chez eux. Ensuite, on parlait de l'extrême défi. L'extrême défi, c'est donc un projet qui a été lancé par l'ADEME en 2021 sur le principe de réunir toutes un ensemble d'acteurs qu'on va appeler maintenant les acteurs les acteurs autour des véhicules intermédiaires, donc des véhicules qui sont 10 fois plus légers que la voiture, 10 fois moins énergivores. Rappelle-moi, Bertrand, c'est quoi encore?
C'est ça déjà.
Oui, voilà. Et donc, voilà. 10 fois, voilà, qui ont 10 fois plus de look vachement sympa que la voiture, ça on peut le dire. Oui, qui suscitent 10 fois plus d'interrogations, de sourires, et qui sont 10 fois, même peut-être 100 fois moins dangereux que la voiture. Puisqu'on dit souvent le vélo c'est dangereux, mais non, non, c'est la voiture qui est dangereuse. Hein. Remettons les choses à l'heure. Cet extrême défi travaille sur tout un ensemble de leviers simultanés qui sont aussi notamment abordés les véhicules intermédiaires par le biais de la culture, de l'aventure, pour amener le plus grand nombre possible de personnes à s'y intéresser et pour faire en sorte que ces véhicules intermédiaires intègrent l'imaginaire collectif et puis la réalité aussi collective. Donc, par exemple, pour ceux qui ont des smartphones, là, j'en vois, vous pouvez regarder Jérôme Zindy, Z-I-N-D-Y, qui est un aventurier reporter qui va partir le 1er février, demain, après-demain,
un frein de main, voilà, à bord d'un véhicule intermédiaire pour faire 3000 km et qui va faire des postes tous les deux jours pour raconter son expérience à bord de ce véhicule intermédiaire. Donc ça participe aussi à communiquer sur ces nouveaux engins de mobilité soutenable et à faire qu'ils s'intègrent dans les mots dans le quotidien. Voilà.
Juste pour réagir, moi je suis entièrement d'accord, c'est Serge Latousse qui utilise cette formule-là pour d'autres choses, mais ça fonctionne très bien, il faut décoloniser notre imaginaire. On a un imaginaire qui a été colonisé par la voiture, où on la voit partout, on a l'impression qu'elle est nulle part, mais on voit trois trottinettes, on se dit on est envahi. Bon, y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous allez sur un parking devant un supermarché, c'est plein de voitures, vous n'allez pas vous dire c'est envahi de voitures. Par contre, vous allez vous dire, oh, dis donc, il y a beaucoup de vélos, ou oh, dis donc, il y a beaucoup de trottinettes, parce qu'il y en a 4 ou 5. Donc, il faut qu'on apprenne à changer aussi nos regards là-dessus. Et effectivement, c'est bien d'utiliser les armes, entre guillemets, qui nous ont vendu la voiture comme un espace de liberté. Quand vous êtes au milieu d'un embouteillage, je ne sais pas quelle liberté vous avez, mais potentiellement, c'est un espace de liberté. On vous dit que... Donc, il faut jouer contre ça. Et pour changer les comportements... Il y a aussi un truc qui marche très bien, c'est ce que dit Hélène, c'est les tests. C'est-à-dire qu'une fois que vous le faites, vous vous rendez compte que c'est possible. Et il y a des moments où c'est particulièrement important de faire tester les choses. On a tous dans notre vie des moments où on change quelque chose. On va déménager. Ben, le déménagement, c'est un super moment pour dire aux gens et pour permettre aux gens de tester. Et j'ai un exemple d'une commune, on n'est pas vraiment en milieu rural, on est dans le périurbain près de Grenoble. Mais où ils proposent aux gens, quand ils déménagent et qu'ils arrivent dans la ville, ok, vous avez 2 mois de test gratuit d'un vélo à assistance électrique. C'est tout bête, ça coûte pas très cher à la collectivité, mais c'est juste pour dire, vous changez quelque chose dans votre vie, et ben essayez de changer ça aussi. Vous allez changer d'environnement puisque vous déménagez, vous allez voir que peut-être votre environnement autour, et ben ça permet de changer. Pareil quand on change de travail. Et là, les employeurs, ils ont aussi un rôle à faire, à jouer, pour pouvoir dire, OK, vous arrivez chez nous, vous arrivez dans la boîte, comment vous venez jusqu'au travail? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas un collègue qui vient à peu près du même endroit? Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça? Donc, il y a des moments un peu charnières sur lesquels il faut jouer, sur lesquels il faut faire tester les choses, parce qu'on s'aperçoit qu'une fois qu'on teste, on se rend compte que les obstacles qu'on imaginait, bah finalement, ils sont assez faibles par rapport aux gains qu'on peut avoir sur d'autres choses.
Aurélien, je vois acquiescer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, j'avais noté trois éléments et le troisième rejoint exactement celui-là. Donc, j'en ai plus que 2 à donner. Je pense que le premier élément, c'est en tout cas de jouer sur le récit, la vision, et c'est ce que fait ce film. C'est vrai que sur la transition énergétique au niveau global aujourd'hui, par exemple quand elle est portée au plus haut niveau de l'État, c'est pour parler essentiellement de voitures électriques, de réindustrialisation, de batteries, de gigafactory, d'innovation technologique. Et là, ici, on a un autre récit complètement différent qui a pour but de faire connaître, de donner envie aussi d'autres alternatives. Peut-être que demain, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui se réveilleront en se disant « peut-être que je peux aller finalement... » à mon travail sur un monocycle en jouant de l'accordéon. Et peut-être que jusqu'à ce matin, il n'y avait personne qui avait cette idée-là. Voilà, avec un récit pareil, peut-être que vous serez plus nombreux demain sur un monocycle en jouant de l'accordéon, et ça, c'est sympa. Et du coup, de montrer cet autre récit, finalement, qui est celui d'une transition, finalement, et d'innovation plus sociale que technologique, quoi. C'est l'autre pendant, et les deux vont être nécessaires, quelque part, pour atteindre un certain nombre de défis, mais on a tendance à résumer la transition, pour l'instant, beaucoup à son aspect technologique, et à ne pas prendre en compte l'énorme chantier qu'on a du côté des transformations des usages, et de tout ce qui va avec. Et déjà, ça demande, en tout cas, d'embarquer la société là-dessus. Donc voilà, c'est notamment via ce film, mais ça doit passer par tout un tas d'autres éléments. Les imaginaires ont été évoqués. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup des projections qui sont données via la publicité, qui donnent des images de voitures avec une seule personne à l'intérieur, dans des routes, sur des routes vides, etc., où c'est la liberté absolue d'avoir ce type d'image-là, etc. Ben forcément, si jamais on veut vendre ces autres alternatives, ben c'est d'autres types d'images qu'il va falloir projeter autant que possible, d'autres types de discours qu'il va falloir... mettre en place, etc. Donc ça, je pense, c'est un premier gros chantier sur un certain nombre d'éléments sur les mobilités rurales, parce que comme je disais, pour l'instant, je pense qu'on est beaucoup sur un blocage, des fois qui est en partie psychologique, au moins en partie, sur le fait qu'on n'imagine même pas autre chose. Et du coup, forcément, on ne le met pas en place, et du coup, forcément, les gens restent bloqués avec la voiture s'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc ça, c'est pour moi le premier élément. Le deuxième élément, c'est de transformer le système de mobilité. Et donc là, ça passe par énormément de choses. En gros, on a un système de mobilité aujourd'hui qui est fait pour la voiture, un système automobile extrêmement efficace, et c'est pour ça que cette voiture est si dominante, et en particulier dans les zones rurales. Si on veut que le reste de ces alternatives puissent prendre beaucoup plus de place, remplacer la voiture individuelle, eh bien, il va falloir transformer toutes les incitations, à la fois au niveau des offres de véhicules, au niveau des infrastructures, des règles de circulation qu'il peut y avoir à certains endroits, des incitations qu'il peut y avoir sur du stationnement plus ou moins abondant, plus ou moins payant ou pas, selon les types de véhicules, selon les services qui sont mis à disposition, les tarifs qui sont proposés, etc. Donc il y a énormément de choses à transformer. Ce serait beaucoup trop long de faire la liste exhaustive de tous les leviers qu'il faut mettre en place, mais c'est quelque chose, c'est un grand chantier, bien évidemment, si on veut que les gens passent à l'action. Et puis le dernier élément, et là je vais pas être long, du coup, c'est évidemment faire tester. Et je pense que c'est aussi ce que fait beaucoup l'association Innovation Véhicule Doux. Et tant que les gens n'ont pas testé, bien souvent ils se rendent pas compte de à quel point les différentes solutions peuvent être justement une solution ou pas pour eux. Alors des fois, le test ne sera pas concluant, mais au moins, il faut au moins avoir testé, avoir fait ce premier pas au moins une fois pour voir si jamais ça peut être une pratique qui peut être utilisée après plus durablement dans le temps.
Vous avez un peu anticipé ma dernière question parce que le temps file et j'aimerais vous laisser le temps de pouvoir échanger avec le public. Donc rapidement, en quelques mots, on sait que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Aurélien, l'objectif de la France en 2050, c'est d'être neutre en carbone. Le secteur du transport, ça représente le premier secteur de gaz à émission à effet de serre. On voit qu'il existe des alternatives, mais il reste forcément des mobilités carbonées. Comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on traverse ce temps de transition où cohabitent à la fois mobilité carbonée et toutes ces alternatives? Et comment est-ce qu'on atteint cette neutralité carbone finalement en 2050?
Le grand élément qui manque aujourd'hui pour permettre à ces solutions, notamment les véhicules intermédiaires, d'envahir le marché et de prendre leur place, c'est un frein réglementaire. Et c'est très compliqué à faire bouger. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais un véhicule pour rouler doit répondre aux exigences dans sa catégorie. Et en prenant le cas de la bestiole, du véloto par exemple, un vélo assisté à 45 km/h à deux places et à pédale, donc, et à quatre roues, ça n'existe pas dans la réglementation. Donc on ne peut pas donner l'autorisation à ce véhicule de rouler parce qu'il n'existe pas. Voilà.
C'est vrai que le chantier est énorme parce qu'on parle vraiment, il faut juste se rappeler, enfin, selon moi, quelques chiffres, on parle de vraiment faire changer les habitudes de 25 millions de personnes en France finalement. C'est vraiment sociétal, quoi. C'est profond. Aujourd'hui, en France, on vend encore des véhicules diesel, c'est tous les jours. Et donc, il y a plein de choses à faire. C'est sûr que les réglementations, les efforts du gouvernement, etc., bon, l'industrie, sûrement, voilà. Moi, il y a toujours un truc qui m'a animé, c'est les changements sociétaux se sont faits aussi grâce aux artistes, à la culture, à tout d'un coup des mouvements qui se soulèvent un peu, qui prennent le sujet à bras-le-corps. Il y a des pétitions ou des tribunes pour soutenir Gérard Depardieu ou être contre Gérard Depardieu. Il pourrait y avoir des tribunes pour dire voilà, il faut changer la façon dont on bouge aujourd'hui, dont il faut évoluer beaucoup plus vite que maintenant. Et on doit tous y participer, et les grands groupes automobiles doivent y participer. Hein. Stellantis, ça fait 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 18 milliards de résultats. Ces chiffres-là sont incroyables. On consacrait ne serait-ce que 1 milliard à développer tout ce qu'on a vu dans le film. Ça serait énorme. Donc c'est comme ça, des petites incohérences, etc. Mais les mouvements sociétaux peuvent se déclencher très très rapidement. Des influenceurs, aujourd'hui, il suffit qu'un artiste qui prend la parole, qui tout d'un coup déclenche une mode, si Beyoncé roule sur un vélo cargo demain, je pense qu'on va vendre beaucoup de vélos cargo. Non, mais c'est un peu comme ça pour voilà. Mais Angèle, en France, si tout d'un coup elle milite, elle dit maintenant, moi, je fais mes tournées de concert, je les fais plus du tout en mobilité carbonée. Ce serait super. Non, mais voilà, enfin, ces grands projets, c'est tout d'un coup ces grands projets. Jérôme Zindi qui fait le Tour de France avec son vélo à pédale, ben, des projets comme ça, encore plus portés médiatiquement, etc., pourraient faire changer les choses.
Alors, je rejoins ce qui vient d'être dit, et ça me fait penser à un orchestre de musique classique qui, comme ça, fait une partie de ses tournées à vélo. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, ils ont fait une tournée entre Grenoble et Annecy, je crois, en s'arrêtant et en se déplaçant tous à vélo. Donc en plus, ça met de l'animation sur les territoires. Enfin, c'est intéressant. C'est effectivement comme ça. Mais je pense, comment on fait dans cette période de transition et comment on avance? Et bien d'abord, ça a été dit dans le film, la question c'est comment on assure l'intermodalité. Mais donc ça veut dire aussi comment on renverse un peu parfois notre mode de pensée, c'est-à-dire que il faut qu'on s'assure de pouvoir passer d'un mode à un autre. Et la voiture, elle reste peut-être indispensable pour un petit bout de trajet, mais il faut faire en sorte que ça devienne intéressant de la laisser à un endroit pour prendre un autre service et un autre mode de transport. Et ça, il faut assurer des aires de mobilité où on va passer d'une aire à l'autre, mais il faut aussi, sur ces aires-là, rajouter d'autres services. Pas seulement lié au transport, mais se dire que c'est aussi sur cette aire-là. J'ai l'exemple en Bretagne d'une aire de mobilité où ils ont installé des vélos en libre-service, des bornes de recharge pour des véhicules électriques, des véhicules en autopartage, et puis c'est là qu'on vient prendre son covoiturage ou rejoindre un covoitureur. Puis en plus, là, sur ce territoire-là, il y a une laverie automatique. Vous savez, les grosses machines de 25 kilos avec le... Il n'y en avait pas sur le territoire de ce service-là. Ce service-là, il a été implanté à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on donne à voir quelque chose, on donne à voir un service en plus au moment où on arrive. On peut imaginer sur ce même endroit des conciergeries. Ça existe dans certains endroits. C'est-à-dire que si vous prenez rendez-vous à l'avance, vous allez déposer votre voiture pour prendre le bus pour le reste du temps. Et puis pendant la journée, on va vous changer vos pneus été, on va vous mettre vos pneus hiver. En montagne, ça marche, ça. Donc, et c'est des petites choses, mais qui permettent de renverser la perspective et de dire que renverser la mobilité, c'est aussi du renversement sur la revitalisation des territoires.
Vous voulez dire un dernier mot ?
J'allais dire, je pense que si on veut faire cette transformation, l'échéance de 2050, elle est quand même vachement lointaine pour parler aux gens. Il faut réussir à ramener aussi à des choses plus concrètes, d'avantages qu'on peut avoir à plus court terme, à la fois les avantages concrets individuels qu'il peut y avoir à ces solutions de mobilité. Il y a notamment, d'un point de vue financier déjà, que très souvent ce sont des solutions qui sont moins chères. Il y a quand même aussi des urgences de ce point de vue-là, d'un point de vue social, dans l'accès à la mobilité, notamment quand les dépenses en carburant sont particulièrement élevées, notamment dans ces zones-là, pour des longs trajets en voiture. Après, la notion de plaisir qu'on a pu voir dans tout un tas de ces alternatives ou de liens sociaux sur l'autopartage, sur le covoiturage, etc., l'activité physique qu'il peut y avoir et le bénéfice du coup pour la santé qu'il peut y avoir avec la pratique du vélo ou de véhicules intermédiaires dans lesquels il y aurait un pédalage à l'intérieur du véhicule. Donc il y a ces bénéfices individuels là, et je pense que en termes de vision plus sociétale et de bénéfices plus collectifs, c'est de mettre en avant les bénéfices qu'on a aussi à y trouver pour avoir aussi un air plus propre, pour avoir moins de pollution sonore, pour avoir des espaces publics qui sont moins pour la voiture, mais plus pour d'autres types d'activités, pour plus de végétation, etc. Et ça, on a énormément à y gagner. Et typiquement, sur cette question de la consommation d'espace lié à la voiture, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en lien avec la ville, dans les plus grandes villes, parce que c'est là où il y a le plus de densité, où la place et l'espace est le plus rare et le plus cher. Mais je pense que même, finalement, dans des petits villages, le nombre de petits villages où la jolie place du village est une énorme place de parking, hein, dans les deux sens du terme, eh bien, en faisant cette transition des mobilités, on pourrait redonner aussi, finalement, des espaces à vivre beaucoup plus agréables. Et je pense que ça, c'est une autre motivation de court terme qu'on peut avoir collectivement à faire cette transition.
Bon, je vais conclure cette soirée. Merci pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'aimerais qu'on applaudisse bien sûr les invités et les experts. N'hésitez pas à vous abonner à la page LinkedIn Place des Mobilités. Merci, merci, merci. J'ai fait l'écho. Voilà, très bonne soirée.